18h-19h, Alpe 1, au bout de l'actu, avec Alex Kam et Cyril Michard.
Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Au bout de l'actu jusqu'à 19h. Une heure d'infos, d'opinions et de points de vue, voilà ce qui vous attend. Et avec grand plaisir de retrouver à nos côtés ce soir Cyril Michard. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Alex et bonsoir à tous.
Avec notre invité qui partage notre table ce soir.
Éliane Barret, 6e vice-présidente de la région PACA, déléguée à la ruralité, au pastoralisme, également membre des commissions des finances administratives générales et ressources humaines, transport et aménagement. Du territoire, deux sujets qui ne sont pas en pénurie. Pénurie d'essence et la ruralité avec son besoin d'utiliser son véhicule personnel qui se fait cruellement ressentir. Quant aux agriculteurs, ils craignent la pénurie à venir du pastoralisme face au loup qui, selon eux, fait le plein. Enfin, Christian Estrosi, le président de la région PACA, a rappelé aujourd'hui les grandes orientations de la stratégie économique. Mais quand lui annonce un budget de combat, l'opposition dénonce de l'enfumage.
Bonsoir Eliane Barreille.
Bonsoir. Bonsoir.
Et merci d'être à nos côtés ce soir pour répondre à nos questions et être présente pour quelques rendez-vous, comme celui-ci évidemment. L'incontournable Selfomaton, à 18h50, vous tirerez le portrait.
Et vous deviendrez la programmatrice musicale d'Au bout de l'actu.
La phrase du jour, à vous de découvrir qui a dit quoi dans l'actualité.
Qui a dit la CGT des groupes ultra-gauchistes.
Et puis rendez-vous autour de l'actualité avec, bien sûr, la Tribune Libre. Et là, c'est vous qui prenez la parole.
L'e-cigarette est désormais considérée comme un produit de tabac. Les publicités sont donc interdites depuis peu. Va-t-on trop loin dans ce produit ou est-ce normal ?
Alpe 1, 18h-19h, au bout de l'actu sur Alpe 1.
Avec l'essentiel de l'actualité, les Alpes du Sud et à la une ce soir, Cyril.
Mobilisation à répétition contre la loi travail à Gap, Digne et Manosque. 800 personnes sont descendues aujourd'hui dans les rues.
On y revient dans un instant. Juste avant cela, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, c'est avec Marie Dompé.
Bonsoir,
bonsoir Marie.
Marie.
Bonsoir, bonsoir à tous. Le grand écart des chiffres de participation aux manifestations contre la loi travail cet après-midi. Ils oscillent à Paris entre 18 000 selon la police et 100 000 selon les organisateurs. 2 000 personnes ont défilé également à Marseille, 5 000 à Rennes, 6 000 à Toulouse selon la police quand les syndicats en annoncent 20 000, entre 3 000 et 9 000 à Lyon. D'autres défilés ont également eu lieu dans de nombreuses villes de France. Et la manifestation parisienne contre la loi travail, elle a été particulièrement tendue. 12 personnes ont été interpellées. D'autres incidents ont été à signaler en France. À Fos-sur-Mer, un manifestant était grièvement blessé, renversé par une voiture qui s'était retrouvée en pleine manif. À Bordeaux, le commissariat a été la cible de jets de projectiles. À Nantes, enfin, une manifestation interdite a réuni 2000 personnes dans le centre-ville et elle a dégénéré. Des commerces ont été dégradés. 3 personnes ont été interpellées. C'est dans ce contexte qu'à l'Assemblée, Manuel Valls a redit qu'il ne modifierait pas cette loi. On l'écoute.
Le projet de loi que votre Assemblée examinera dans quelques jours continuera son parcours et donc il n'y aura pas de retrait parce que c'est une réforme nécessaire pour notre pays, c'est une réforme de progrès social qui met en œuvre de grandes avancées. Vous pouvez compter sur mon engagement, ma détermination et ma cohérence pour faire porter ce projet, sa philosophie qui est au cœur de l'article 2, c'est-à-dire la négociation dans l'entreprise jusqu'au bout.
Par ailleurs, grève et blocage continuent. 5 raffineries sur 8 sont encore perturbées par le mouvement. 50% des stations sont à sec. Du côté des centrales nucléaires, la CGT annonce que la totalité des centrales sont touchées par la grève, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes perturbées dans leur fonctionnement. 10 centrales nucléaires sur les 19 du parc français sont concernées par des baisses de production. Dans les transports, Sud RATP appelle à la grève pour l'Euro de football. Le trafic aérien, enfin, est perturbé aussi. À Orly, 15% des vols sont annulés, mais à la SNCF, les perturbations sont plutôt faibles. Le mouvement est peu suivi aujourd'hui. Enfin, on parle tennis. Direction Roland-Garros, ça passe pour Thomas Berdych, qualifié pour le troisième tour, tout comme Raphaël Nadal. En ce moment, sur les cours de la Porte d'Auteuil, Joe Wilfried Tsonga affronte Bagdatis notamment. Excellent après-midi à tous.
Merci. Nouveau point sur cette actualité tout à l'heure. À 19h, notre invité ce soir, Eliane Barret. Alors, on ne reviendra pas sur les méthodes de comptage qui sont bien différentes si on est des forces de l'ordre ou des syndicats, comme on a pu le constater ce soir. En revanche, une question simple. Est-ce qu'il a tort de ne pas vouloir modifier cette loi ? Il l'a réaffirmé, on l'a entendu à l'instant, Manuel Valls à l'Assemblée, répondant une nouvelle fois à Michel Sapin, le ministre des Finances, qui laisser sous-entendre que la possibilité de discuter l'article 2 était envisageable. Alors on peut imaginer que c'était un moyen d'être un peu poisson pilote dans cette idée-là et de voir comment l'opinion publique allait réagir. Le gouvernement est vite revenu en arrière par la voix donc de Manuel Valls. Il a tort de ne pas vouloir discuter et éventuellement revenir sur cet article 2.
Je crois qu'il a croisé des chemins, le gouvernement. Il est vraiment en grande difficulté. S'il revient, c'est clairement, il affiche sa faiblesse. Définitivement, Et s'il ne revient pas, effectivement, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans la rue.
Ça, c'est la posture politique. Mais d'un point de vue philosophique et politique, est-ce qu'on peut imaginer que ça serait une bonne chose ? On sait que les Républicains en voulaient plus, et que la dernière mouture ne correspond pas à celle qui aurait pu être votée par les Républicains à l'Assemblée.
Absolument. Ce qui aurait pu être voté par les Républicains à l'Assemblée, c'est celle la loi telle qu'elle a été proposée tout à fait au début. Elle ne convient pas du tout à ce que nous en attendions, et avec toutes les modifications qui ont été apportées. Et malgré cela, de toute façon, maintenant, elle ne convient plus non plus à la gauche et aux forces de gauche. Donc, c'est vraiment compliqué maintenant de trouver un consensus. Ceci étant, je ne vois pas comment il peut reculer. Il est vraiment acculé. Je ne vois pas comment il peut reculer. Et donc, je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. On ne peut pas, compte tenu de la situation de la France, on ne peut pas continuer à mettre notre pays encore plus en danger.
Ça veut dire que, imaginons que cette loi était une loi proposée par la droite si elle avait été au pouvoir, elle aurait été validée avec le texte initial. On imagine que dans les rues, ça aurait été pire.
De toute façon, écoutez, je crois que c'est la première fois qu'on voit un tel déferlement dans les rues avec un gouvernement de gauche. Donc ça n'aurait pas pu être pire. On a vu aussi, certaines fois, avec des gouvernements de droite, effectivement, des manifestations. Mais je crois que là, ça dépasse l'entendement. Parce que après les nuits debout, maintenant, les manifestants dans les rues et les raffineries, les centrales nucléaires, ça commence à faire beaucoup.
Quand vous dites qu'il faut prendre ses responsabilités, qui doit les prendre, hormis le gouvernement ? Est-ce que vous êtes de l'avis de Manuel Valls, c'est-à-dire que ce n'est pas la CGT qui fait la loi dans ce pays ?
Personnellement, c'est ce que je pense. Ça n'est pas à la CGT de faire la loi. Ceci étant, aujourd'hui, la CGT bloque un certain nombre de personnes parce qu'au travers du blocage des raffineries et autres, effectivement, il y a des gens qui sont bloqués. Parce que la pénurie d'essence, bien que j'entende depuis des mois « ça va mieux », aujourd'hui, ce n'est pas un leurre, la pénurie d'essence. Alors, ce n'est pas la pénurie d'essence, c'est en fait le blocage des stations, puisqu'on sait très bien que de l'essence, nous en avons et qu'il y a des stocks suffisants en France pour pallier à plusieurs semaines.
Vous appelez à la raison les personnes qui se mobilisent ?
Alors moi, j'appelle à la raison pour débloquer les stations, les raffineries et donc les stations d'essence. Évidemment, je pense que les citoyens n'ont pas à être les otages à chaque fois de syndicats.
Est-ce que pour autant, cette minorité telle qu'on la dénonce, à savoir la CGT, n'est pas là aussi pour défendre une majorité qui, dans les sondages, tente à prouver qu'elle aussi est contre cette loi travail ?
Mais oui, mais est-ce le rôle d'un gouvernement, d'un syndicat qui n'est pas majoritaire, de bloquer l'ensemble du pays ? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut absolument que le gouvernement accepte qu'il y ait des négociations et qu'on sorte de cette crise.
Allez, on poursuit avec votre regard sur l'actualité. Liane Bareille, on se tourne du côté du Alpe1.com.
La question Alpe1.com. Alpe1.com.
Une question qui fait appel à votre perception, au-delà des connaissances éventuelles qu'on peut avoir sur le sujet, parce que ce n'est pas forcément évident d'y voir clair sur cette question qui est posée.
Une question qui ouvre beaucoup d'autres questions. On parle des fonctionnaires. La question du jour, les fonctionnaires sont-ils ceux qui travaillent le plus le dimanche et le plus la nuit ? Une question qui fait référence à ce rapport sur le temps de travail des fonctionnaires, un rapport remis par Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux. Il relève que les agents des administrations travaillent en moyenne 15 journées de moins par an que les salariés du secteur privé. Un rapporteur qui souligne aussi qu'il y a un risque financier au niveau des fonctionnaires, un risque qui pèse sur le compte épargne-temps, un compte épargne-temps qui permet aux agents de stocker leurs jours de repos non consommés afin de les utiliser plus tard ou de se les faire rembourser par l'État employeur. Quand je dis qu'il y a un danger par rapport à ça, c'est que dans les hôpitaux ou même au sein de la police, mais surtout au sein des hôpitaux, c'est une thésaurisation qui s'apparente à une véritable dette aujourd'hui et qui pourrait mettre à mal ce système demain, c'est-à-dire que les fonctionnaires actuellement des hôpitaux stockent ce compte épargne-temps, notamment pour leur retraite, et à ce moment-là, ils ne seront plus remplacés quand ils partiront. Comment on fait ? C'est un problème qui a été mis à jour après les 35 heures.
C'est un problème qui touche toutes les administrations. En principe, c'est le compte épargne-temps fait l'objet de négociations initiales avec les syndicats au sein du comité technique paritaire. Ceci étant, c'est vrai que dans les hôpitaux, c'est particulier. Je pense que là, il y a un autre problème. Il y a la difficulté à leur payer des heures supplémentaires. Et donc, forcément, on leur demande, parce qu'on leur demande de le mettre sur le compte épargne-temps. C'est un problème totalement différent de ce qui peut se passer dans les autres collectivités locales. Donc dans les hôpitaux, c'est vrai, ça risque de mettre en péril une situation de trésorerie déjà fragilisée. C'est exact.
La question, elle est aussi en rapport avec les élections présidentielles et l'alternance qui est voulue par la droite et une partie des électeurs également, qui est celle-ci. Est-ce qu'il faut mettre fin aux différences entre les salariés du privé et des publics ? Et du public, c'est de plus en plus ce vers quoi tendent certains candidats aux primaires de la droite. De votre point de vue, vous en êtes où sur cette réflexion ?
Sincèrement, je ne fais pas partie des gens qui trouvent que les fonctionnaires ne travaillent pas et qu'ils ont trop d'avantages. Ceci étant, je pense qu'on est en France et que l'équité territoriale doit prévaloir. Et qu'à un certain moment, il y a vraiment des disparités importantes entre le public et le privé. Il y a quelques années, on pouvait penser effectivement que les salaires du public étaient moins élevés et donc effectivement que cela nécessitait par ailleurs des avantages autres que le privé. Aujourd'hui, avec la mise en place du régime indemnitaire, auquel peuvent prétendre la quasi-totalité des fonctionnaires, je pense que ce n'est pas vrai. Et que les fonctionnaires ont les mêmes salaires, voire plus importants, que le privé. Simplement, il y a une grosse différence aujourd'hui, c'est que les primes ne sont pas intégrées dans leur calcul de retraite. Donc ça, il est évident que ça doit être un profond changement qui doit être apporté. Après, le deuxième changement qui doit être apporté, à mon avis, je vous le livre comme ça, parce que je ne m'étais pas du tout préparée à ce type de question. Je pense franchement qu'il y a un problème à l'approche de la retraite. Il n'est absolument pas admissible que dans le privé, on prenne les 15 dernières années. Hein, et donc, ça veut dire que si vous avez eu 5 mauvaises années, vous chutez considérablement dans le montant de retraite qui va vous être alloué. Et que chez les fonctionnaires, on prenne les 6 derniers mois, qui, on le sait, sont toujours les meilleurs, puisque en principe, à l'approche de la retraite, il y a toujours des augmentations d'échelons, des augmentations de grades, donc qui sont toujours les meilleurs. Ça, je pense que ce n'est pas admissible. On n'est pas devant l'égalité.
Donc, il faudra un rééquilibrage. Et vous en appelez à ces candidats de la droite de faire plus que des promesses, mais de vraies propositions qui touchent à un totem, hein, toucher aux droits des salariés du public. On sait à quel point ça peut être compliqué. Mais vous en appelez à cette responsabilité-là ? Ne soit pas juste un effet d'annonce ?
Non, ça, c'est vraiment ce que je pense et que je dis depuis longtemps. Simplement, je le redis bien, hein, ça sous-entend aussi une réforme profonde de la fonction publique. Parce qu'il n'est pas question à ce moment-là de calculer des retraites en dehors des régimes indemnitaires. Parce qu'alors là, pour le coup, on mettrait de la disparité dans l'autre sens. Donc il faut vraiment une réforme de la fonction publique et essayer de faire en sorte qu'il y ait une véritable équité entre le public et le privé.
Il y a aussi un déséquilibre, une disparité aussi entre les ministères. On le sait, tous les fonctionnaires, notamment de la fonction hospitalière, n'ont pas du tout le même rapport au travail par rapport à d'autres ministères. On le sait aujourd'hui.
On sait très bien qu'il y a des difficultés, que dans certains ministères, et notamment tout ce qui touche à la santé, les choses sont beaucoup plus compliquées et demandent une réforme encore plus importante. Je crois très honnêtement qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le milieu hospitalier, c'est quand même avant tout un défaut de personnel, un manque de personnel. C'est aussi pour cette raison qu'ils ont des comptes épargne-temps importants, parce qu'évidemment, ils travaillent plus et on leur demande de récupérer leurs heures supplémentaires. Donc forcément, à un certain moment, ça va sur le compte épargne-temps.
Un dernier mot, une dernière réaction sur la fonction publique, la proposition de Bruno Le Maire de remplacer à terme des contrats de type territoriaux pour les agents territoriaux par des CDD, des CDI. Vous y êtes favorable à cette idée ?
Écoutez, c'est difficile de vous répondre à chaud, mais je crois réellement qu'il faut tendre vers une égalité publique-privée. Donc, à un certain moment, il faudra aussi se poser cette question-là, sachant qu'aujourd'hui, ça existe quand même dans la fonction publique, les CDD et CDI. Alors, c'est souvent de manière déguisée, vous le savez bien. Il y a des remplacements sous forme d'arrêtés du maire, etc. Mais je pense que ce sont des questions qui devront être mises sur la table et débattues. Ça ne peut pas se faire unilatéralement. Il faudra bien entendu qu'il y ait des négociations et des négociations avec l'ensemble des représentants.
Allez, on revient donc à cette question du Alpe1.com. Les fonctionnaires sont-ils ceux qui travaillent le plus le dimanche et le plus la nuit ? Eh bien, selon vous, c'est non à 65%, oui à 28% et vous restez sans opinion à 6%. On reviendra bien sûr sur cette question tout à l'heure. À 19h, vous continuez d'ici là bien sûr à donner votre avis. On passe à l'actualité des Alpes du Sud.
37 ans a quitté le domicile parental de Poligny dans le Champsaur le 11 mai dernier. Il ne possède sur lui ni téléphone portable ni papier d'identité. Un appel à témoins est lancé au 17 ou auprès de la compagnie de Saint-Bonnet au 04 92 50 52 50. Cet homme mesure 1m74, pèse 70 kg. Il est de corpulence mince, les yeux marrons, les cheveux courts en calvitie partielle. Jean-François Sénéchal possède un tatouage représentant un bracelet en barbelé sur le biceps droit. Sa photo est à retrouver sur lealpin.com. Devant la justice des Hautes-Alpes, cet après-midi, un homme de 36 ans, déjà condamné à 20 reprises, le prévenu est soupçonné de violence aggravée sur sa compagne en date du 25 avril dernier à Gap. Son procès devait initialement se dérouler le mois dernier, un procès finalement repoussé afin que l'homme prépare sa défense.
Et puis mobilisation en répétition contre la loi travail.
Les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires ne changent pas leur position. Ils demandent le retrait pur et simple du projet de loi. Mobilisation à Gap avec 300 personnes, 150 à Digne-les-Bains, 350 à Manosque avec les lycéens, mais aussi les salariés. Des mobilisations qui entachent également la circulation ferroviaire dans les Alpes du Sud jusqu'à demain matin à 8h. Un TER sur 3 circulera entre Marseille et Briançon. Aucune circulation sur l'axe Grenoble-Vengap. Le train de nuit Paris-Briançon est supprimé. Il y a un seul aller-retour entre Gap et Briançon. Des cars remplaceront donc certains de ces TER supprimés. Renseignements sur le www.sncf.com ou au 0800 11 40 23.
Huitième appel national donc pour se mobiliser face à la loi travail ce jeudi et un conflit qui se durcit depuis ces derniers jours avec une grogne qui s'étend au port, aux centrales nucléaires, à la SNCF et aux raffineries.
Des stations essence qui ont eu du mal à faire le plein et fournir leurs clients, y compris les entreprises. L'UPE, l'Union pour les entreprises dans les Hautes-Alpes, lance donc un sondage pour savoir à quel point cette crise affecte les sociétés du département. Votre entreprise est-elle impactée? À quel niveau a-t-elle fait l'objet de siphonnage de réservoirs? Combien d'heures perdues du fait de la pénurie? Ou encore, qu'attendez-vous des pouvoirs publics? Autant de questions qui sont mises à disposition des sondés. Retrouvez le lien sur le www.alpin.com.
On parle de la course cycliste du Giro qui devrait également être perturbée par des élans d'opposition.
Une course attendue dans le Guy S3 cette fin de semaine. Les anti-loups et les pro-loups promettent de s'affronter au bord des routes. Quant aux opposants au chantier RTE de ligne très haute tension dans les Hautes-Alpes, ils promettent une action ce vendredi et ce samedi, malgré le courrier envoyé par le député PRG des Hautes-Alpes, Joël Giraud, qui a écrit à la secrétaire d'État à la biodiversité, Barbara Pompili, pour lui demander de recevoir les opposants, se disant, lui, favorable à une réadaptation du projet avec l'enfouissement des lignes électriques et aériennes dans les zones sensibles. Les opposants NoTHT annoncent le soutien récent du conseil municipal des Vigneaux, une délibération prise le 5 avril dernier.
Enfin, autre mouvement à noter cette fois, et du côté du FICAS.
Préavis de grève déposé au sein du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud pour ce vendredi. À l'appel de la CGT, de la CFDT et de FO, un rassemblement du personnel aura lieu demain matin à 8h avant la réalisation du comité technique d'établissement. C'est lors de ce comité que le dossier CREF, contrat de retour à l'équilibre financier, doit être présenté. Selon les syndicats, celui-ci n'est rien d'autre qu'un plan social contenant 28 suppressions de postes infirmiers et aides-soignants, 70 au total jusqu'en 2019.
On parle également dans l'actualité de la maison de l'eau et des énergies EDF qui s'offre une cure de jouvence.
6 mois que la structure dédiée au barrage de Serre-Ponçon mais aussi à l'explication de la production d'électricité est fermée. Plus moderne, meilleur espace d'accueil, nouveau module multimédia. La maison de l'eau et des énergies basée à Espinasse promet des visites plus ludiques après 17 ans d'existence. À noter qu'elle accueille chaque année plus de 12 000 visiteurs. C'est le site d'EDF le plus visité en région PACA. Visite donc de cette maison de l'eau et des énergies sur réservation puis ouverture dès le 1er juillet.
On finit par un mot de sport avec le rallye des princesses.
Il s'élancera samedi depuis Paris à la place Vendôme pour rejoindre Saint-Tropez en passant par Gap. Le rallye des princesses verra 83 équipages 100% féminins s'affronter au volant de voitures de collection. La navigation sera bien sûr au cœur de la compétition avec une vitesse moyenne imposée selon l'âge du véhicule, vitesse qu'il faudra respecter le plus minutieusement possible tout au long des 5 jours de course. Notez que l'étape gapençaise de ce rallye féminin verra le mercredi 1er juin les voitures et les princesses s'arrêter aux Olivades à Gap entre 12h20 et 14h50. 18h20 sur la première radio des Alpes du Sud.
Autant dire que l'intensité ne sera pas tout à fait la même que le Monte Carlo avec Sébastien
non.
Ogier et Julien
non,
Miracier.
Non, mais c'est très compliqué, hein, vous savez, de tenir une intensité, une vitesse moyenne.
J'entends bien. Je relève juste que ce sera rien le nom du départ sur la place Vendôme et l'arrivée à Saint-Tropez, ça fait tout de suite un peu différent. Hein. Bon, on l'appelle pas le rallye des princesses pour rien. Notre invitée ce soir est Eliane Bareille, elle est 6e vice-présidente et je ne fais pas de liaison avec les princesses, vous l'aurez remarqué, j'aurais pu mais j'aurais pas qu'on m'accuse de quoi que ce soit. 6e vice-présidente de la région PACA, on revient sur un élément de l'actualité des Alpes du Sud. Cyrielle.
Et notamment ce sondage de l'UPE pour savoir à quel point cette crise affecte les entreprises du département. Est-ce que vous craignez un effet bombe à retardement sur cette pénurie d'essence ?
Je crois très honnêtement que si la situation ne se débloque pas rapidement, on va mettre en danger un certain nombre de pans d'activité. Les artisans, les commerçants, tous ceux qui ont utilisé leurs véhicules, bien entendu les transports en commun, évidemment. Je pense qu'il y a tout un pan d'activité qui va être mis en danger, car il est déjà de plus en plus difficile de se procurer de l'essence. Donc, évidemment.
Objectivement, tout de même, même si on sait qu'on est dans des territoires ruraux et que la voiture est bien sûr indispensable, est-ce qu'il n'est pas temps aussi qu'un appel commun de la part des élus et des responsables des Alpes du Sud soit un appel à la modération aussi ? Car on a vu beaucoup d'automobilistes aussi se ruer dans les stations-service qui, on peut l'imaginer pour certains, n'avaient pas une obligation absolue d'aller faire un plein systématique, sans parler de ceux qui éventuellement, et on rappelle que c'est interdit par la loi, rupture ou par rupture de stock de l'essence, d'avoir des jerrycans dans la voiture. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un message, alors qui n'est peut-être pas politiquement correct et qui ne fait pas forcément plaisir à entendre, mais qui est aussi une réalité ? On n'est pas dans l'obligation de se ruer systématiquement sur les stations-service.
Parler tout à l'heure de responsabilité, on est en plein dedans. Je veux dire, à partir du moment où vous n'avez pas un réel besoin d'essence, effectivement, il est inutile peut-être d'y faire des provisions, mais sont ceux-là ceux qui ont réellement besoin de leur véhicule. Puisque bon, ici, malheureusement, dans nos territoires ruraux, vous le savez aussi bien que moi, il est compliqué de se déplacer avec des transports collectifs. Donc, ceux qui travaillent ont réellement besoin de leur véhicule.
Et oui, c'est là où on voit toute la faiblesse du ferroviaire.
Absolument. Du ferroviaire et pas seulement du ferroviaire, des transports collectifs en règle générale, parce qu'il n'y a pas de desserte suffisante et surtout échelonnée dans le temps. Donc obligatoirement, on est obligé d'avoir des véhicules pour se déplacer.
Je serais mauvais esprit, je dirais alors qu'est-ce que va faire la région sur ce sujet, puisqu'elle en a les compétences principales.
Elle en a les compétences principales.
Et ce sera un moyen de retour sur expérience.
En tous les cas, c'est d'ores et déjà un moyen de faire une mise à plat et d'étudier le schéma des transports de façon à voir les secteurs justement où il y a des manques, parce que c'est ça le vrai problème. C'est déjà commencer par voir les secteurs où il y a des manques. Alors moi, je ne fais pas d'affrontement ferroviaire ou routier. Il faut qu'il y ait l'un ou l'autre, mais en tous les cas, il faut qu'il y ait au moins l'un des deux.
Et justement, vous pourrez répondre à cette question après la pause. Pourquoi, dans ce cas, si les transports, et notamment les transports collectifs, sont importants, pourquoi la région baisse le budget qui est accordé ? C'est une question qui a notamment été posée par Christophe Castaner.
On y revient juste après donc la pause, comme m'a dit Cyrielle, et puis bien sûr vos prévisions Météo France pour demain.
Au bout de l'actu. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Mais surtout ce soir avec notre invitée Eliane Bareille, qui, je vous le rappelle, est 6e vice-présidente à la région PACA. On revient sur cette question qui vous était posée par Cyrielle avant la pause. On va se la remettre en tête. Elle concernait le ferroviaire et plus précisément une question qui était posée par l'intermédiaire de Christophe Castaner.
On constatait justement avant la pause la faiblesse du ferroviaire et des transports collectifs. Vous rappeliez l'importance justement de les développer, mais en même temps, il y avait cette question de Christophe Castaner, député des Alpes-de-Provence et on le rappelle également ancien candidat pour l'EPS pour les élections régionales. Il constatait, lui, une baisse du budget du transport, 3 millions d'euros de moins en fonctionnement, 21 millions d'euros en moins en investissement.
Alors je vais répondre à Christophe Castaner très simplement que son gouvernement a fait en sorte que la région perde 252 millions au titre des dotations d'État. Et aujourd'hui, la situation financière de la région est absolument catastrophique. Un endettement qui relève des 12 années si nous ne faisons rien, voire 15 années, énorme. Bien entendu, une épargne négative. Des engagements aujourd'hui en termes d'actions non budgétées. Et d'ailleurs, je vais vous en donner un exemple clairement. Par exemple, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté un certain nombre d'engagements non budgétés. C'est le cas pour un certain nombre d'actions agricoles, notamment à destination des CUMA ou à destination des équipements pastoraux. Cette année, nous sommes obligés de rattraper le retard 2015 pour que les agriculteurs ne s'en trouvent pas pénalisés.
Vous estimez à combien ce retard ?
C'est important, puisque rien que sur les équipements pastoraux, c'est grossièrement 1,5 million. Ça doit être à peu près autant au niveau des CUMA. Et donc, ça veut dire que ça va être inscrit en 2015 et en même temps, il faut inscrire l'année 2016. Donc, on ne peut pas à la fois rattraper les investissements qui n'ont pas été budgétés en 2015, à la fois maintenir les mêmes budgets et à la fois avoir des dotations d'État de plus en plus en baisse.
Mais on peut aussi avoir une politique volontariste sur des chantiers qui pourraient sembler essentiels, ce qui est le cas pour le ferroviaire.
Alors oui, c'est vrai. Sauf que là, aujourd'hui, nous arrivons. Nous sommes en train de faire une mise à plat. Nous avons donc baissé absolument tous les budgets pour une raison simple. Enfin, quand je dis tous les budgets, globalement, nous avons baissé le budget pour une raison simple, c'est que nous n'avons pas, nous n'avons pas d'autre possibilité que d'abaisser la dette pour retrouver une capacité d'investir. Donc ça, c'est notre préoccupation pendant au moins cette année, voire la deuxième année. Après, évidemment, au travers des actions que nous allons mener et surtout des constats que nous faisons, certainement, nous allons nous pencher sur des budgets plus ou moins importants, ici ou là. Mais on ne peut pas pénaliser les uns et favoriser les autres. Mais tout est important.
Vous le dites, on a baissé tous les budgets. Pourtant, aujourd'hui, Christian Estrosi, le président de la région PACA, a rappelé ce jeudi même les grandes orientations de sa stratégie économique. Il a une nouvelle fois souligné un budget de combat avec une augmentation de 12% des aides directes aux entreprises. Mais c'est une augmentation qui est contredite par Christophe Castaner qui lui dit « Non, il n'y a pas d'augmentation, c'est juste une bascule. Désormais, la région gère les fonds européens, d'où l'augmentation du total. » On n'est pas un peu dans l'hypercommunication de Christian Estrosi ?
Et de Christophe Castaner, pardon. Mais je crois qu'effectivement, en termes de communication, les deux se rapprochent beaucoup. En ce qui concerne Christian Estrosi, clairement, il a affiché sa volonté de favoriser l'entrepreneuriat et donc l'emploi. Donc, effectivement, l'accent est mis sur les entreprises et sur l'emploi. Donc, effectivement, il est allé chercher des fonds européens. Je vous le rappelle, des fonds européens qui, par le passé, n'étaient pas totalement consommés, notamment en termes d'aménagement du territoire, qui sont retournés, qui n'ont pas été utilisés. Donc, on ne peut pas avoir deux discours. Je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter d'être dans la politique politicienne. Nous n'avons pas d'autre choix que de baisser les dépenses de fonctionnement si nous voulons favoriser l'entrepreneuriat et l'emploi. Ça, c'est la priorité. Nous ne pouvons pas laisser pour compte les agriculteurs. Ça, c'est une deuxième priorité. Nous ne pouvons pas abandonner les lycées, les formations et les centres de formation. Voilà, tout ça, ce sont des compétences qui sont à la région aujourd'hui et que nous devons assumer avec une difficulté complémentaire, qui est celle de la loi NOTRe. Parce que vous le savez, aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2016, la région a récupéré la totalité de la compétence économique, la totalité de la compétence agriculture. Aujourd'hui, le département des Alpes-de-Haute-Provence y revient un peu sur sa copie. En début d'année, a dit « nous n'avons plus la compétence, nous ne finançons plus ». Sauf qu'on a mis en difficulté tout un pan entier d'économie, à savoir les agriculteurs. Donc aujourd'hui, le département a intégré qu'il ne pouvait pas laisser du jour au lendemain les agriculteurs sur le bas du chemin. Donc, il revient sur sa position. Mais au 1er janvier 2017, ça sera la réalité. Donc, nous devons attaquer des négociations. C'est fait, d'ailleurs. Nous avons commencé pour trouver un équilibre financier entre ce que faisait le département et ce que va être obligé de faire la région. Tout ça, c'est un coût supplémentaire à la région. Il ne faut quand même pas le perdre de vue. Et c'est les bienfaits de la loi NOTRe, qui n'est pas la mienne, vous l'avez compris.
Pas de discours politico-politicien. Et si je vous donne le discours d'un technicien, qui est aussi président du Modem dans les Hautes-Alpes, mais qui, de son métier, est président d'une plateforme, la plateforme Initiative dans les Hautes-Alpes. Stéphane Blondel, qui disait aujourd'hui, en effet, Christian Estrosi souligne l'importance des TPE et des PME. Pourtant, rien n'est fait pour les TPE. Il n'existe rien, ni au niveau de l'État, ni au niveau de la région, pour accompagner les TPE, qui représentent tout de même environ 90% du tissu économique dans les Alpes du Sud. Alors, il y a la mise en place de ce guichet unique, mais pour Stéphane Blondel, ça n'est que de la sémantique, et je le cite, tout le monde s'en prévaut, les consulaires, le département, la région, mais c'est un leurre. La seule possibilité, c'est la capacité régionale à s'appuyer sur des structures de proximité qui financent, comme la plateforme Initiative. Pourquoi refaire encore des guichets uniques ? Et c'est vrai, on l'entend de partout, ce guichet unique. Tout le monde a un guichet unique, alors qu'au final, il y a des structures de proximité qui savent où mettre de l'argent.
Alors, je suis un peu contrite par ce discours parce que je dois dire que j'ai beaucoup défendu les plateformes d'initiative, en particulier dans le 04. Et effectivement, les plateformes d'initiative ont été mises en difficulté dès le début de l'année, encore une fois par la défaillance du département. Et il se trouve qu'au travers effectivement des actions qui auraient pu ou non être menées par la région, elles se seraient retrouvées complètement laissées pour compte parce que là, elles n'avaient plus capacité à se financer et être actives. Je considère que les plateformes d'initiative sont très importantes et notamment dans les départements ruraux. Elles jouent un rôle essentiel vers l'entreprise, la TPE effectivement, et l'emploi. Elles jouent un rôle essentiel. Donc je suis montée au créneau, je les ai défendues et donc elles ont obtenu pour l'année 2016, année de transition, mais je vais y revenir, la totalité des financements qu'elles avaient par le passé. Donc, c'est pour ça que je dis, je suis un peu contrite par ce discours. Donc ensuite, concernant le guichet unique, je voudrais juste rappeler que Christian Estrosi a décidé de mettre en place dans chaque département des maisons de la région. Et dans ces maisons de la région, il va y avoir effectivement quelqu'un, un technicien qui aura une formation et qui aura une capacité à répondre à toutes les demandes qui pourraient relever de l'ensemble des entreprises, de la plus petite à la plus grande. Donc de représenter le développement économique au sens large.
Quelle différence y aura avec une chambre consulaire comme la CCI, par exemple, qui est déjà là pour répondre à ce genre de demandes?
Je pense que nous devons être complémentaires. Ouais. La région intervient beaucoup. Elle intervient beaucoup en termes d'investissement, elle intervient beaucoup sur les plateformes.
Complémentaire ou multicouche? Parce qu'on parle beaucoup de ces multicouches et là on a l'impression que c'en est une nouvelle.
Non, moi je pense très honnêtement que ça va être des partenariats. Et d'ailleurs, nous avons commencé à travailler en partenariat. Nous cherchons même des mutualisations parce que je crois que c'est ça aussi le terme qu'il est important d'employer. J'aimerais vraiment insister sur la volonté du président Estrosi d'avoir une action particulière à destination des entreprises. Et les plateformes, aujourd'hui, existent. Elles font un travail remarquable, je le redis. Il n'est pas question de supprimer certains nombres d'actions. Simplement, je crois qu'il y a des partenariats à établir. Il y a aussi eu beaucoup dans le passé, justement, vous en parliez, de couches superposées. Chacun avait des financements dans la région. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens d'aller partout. Donc, il faut se recentrer sur nos compétences. Et il faut se recentrer sur ce que l'on va pouvoir faire au travers de certaines associations ou de nos guichets uniques. Je voudrais aussi rappeler une chose quand même. C'est que la loi NOTRe nous impose à la mise en place d'un schéma de développement économique. Ce schéma de développement économique verra le jour, je pense, dans le premier trimestre 2017. Nous avons commencé à travailler là-dessus. Et c'est uniquement au travers de ce schéma de développement économique, de son contenu, que la région pourra continuer à intervenir et avoir des actions en partenariat, entre autres, avec le département. Ça, c'est important aussi. Ça aussi, c'est important.
Et d'ailleurs, ça va dans le sens du discours qu'il a eu aujourd'hui, le schéma de développement économique, puisqu'il disait « Mon ambition, c'est une région qui crée plus de valeur ajoutée, plus d'innovation et donc plus d'emplois. Si nous ne spécialisons pas, nous nous perdrons. » Et à cette occasion, il a annoncé que l'Agence régionale d'innovation et d'internationalisation de produire une étude approfondie pour l'automne sur les destinations et pays clés, notamment au regard des filières stratégiques que nous aurons identifiées. Ça va dans le sens de ce schéma de développement économique. Que devra être ce développement, plus particulièrement dans le 04, selon vous, évidemment, et à cette heure?
Écoutez, il m'est difficile quand même de vous répondre, mais il y a déjà...
Il y a des évidences, cela dit, qui existent déjà.
Il y a des évidences, parce qu'il y a déjà des beaux fleurons d'entreprise. Il faut se rappeler quand même que, notamment, le pôle Saveur Senteur fonctionne parfaitement bien. Nous avons des entreprises extraordinaires comme l'Occitane qui sont sur notre territoire, bien d'autres, bien sûr. Donc, évidemment, il y a déjà des stratégies à mettre en place. Nous ne pourrons pas être opérationnels au même titre que le département de Bouches-du-Rhône, par exemple. Il faut utiliser ce que seront nos richesses. Donc c'est ça toute la difficulté et c'est ça le travail que nous avons commencé à mener au travers de la mise en place de ce schéma de développement économique.
Vous le disiez justement, et c'était pendant la campagne électorale, il faudra faire des audits justement pour établir nos actions. Mais est-ce que ça n'est pas un peu fou aujourd'hui d'arriver en 2016 et d'avoir besoin d'une étude pour savoir où aller dans des choses qui semblent en effet presque logiques? dans les valeurs ajoutées, dans ce qu'on sait faire. On sait que dans les Hautes-Alpes, notamment, ce qui doit être développé, c'est toute la valeur ajoutée, comme Stéphane Blondel disait, des petites niches de ces personnes qui développent des nouvelles technologies. Dans les Alpes d'Haute-Provence, c'est la vallée des senteurs-saveurs, notamment.
Mais évidemment, il n'est pas question de tout remettre en cause. Il est bien entendu, c'est un diagnostic que nous posons et donc on va s'appuyer sur l'existant. C'est évident, mais il faut bien, puisque nous avons l'obligation de par la loi, de créer ce schéma de développement économique qui, je le rappelle en plus, va permettre notamment au monde agricole, pardon de revenir vers le monde agricole, qui va permettre au monde agricole, via ce schéma de développement économique, de bénéficier des fonds européens. Donc c'est extrêmement important. Donc nous devons prendre le temps de nous poser, de poser les bonnes questions, de faire en sorte d'avoir un diagnostic le plus précis possible pour effectivement trouver, vous parliez de niche, oui c'est vrai, mais trouver les grandes directions qui vont convenir dans chaque territoire. Mmh. Parce qu'en fait, cette région est riche de la différence de ces territoires. Et donc, il faut bien les prendre en compte tous ensemble.
Est-ce que le développement de toutes ces richesses dont vous parlez dans les Alpes d'Haute-Provence n'est pas une crainte pour l'avenir de dissocier deux parties du territoire, le nord et le sud, comme ça a souvent été le cas, et que ça peut être encore le cas aujourd'hui, parce qu'il y a deux façons différentes d'aborder le monde économique dans ces deux territoires. On parle principalement de l'Ubaye, quand je parle du nord, et bien sûr du sud avec cette vallée senteur-saveur. Est-ce que là, il ne sera pas temps aussi de redéfinir peut-être un redécoupage qui soit un peu différent ?
Vous savez, ce redécoupage, et notamment ce découpage concernant le schéma de coopération intercommunale, j'ai eu l'occasion de le dire, je n'y suis absolument pas favorable. Hein. Je pense que c'est une erreur, qu'il y a des erreurs stratégiques et que ça ne va pas dans le bon sens.
On va dans cette opposition nord-sud, hein, telle que le redécoupage est fait aujourd'hui.
Absolument, parce qu'en fait, on a les territoires les plus riches, c'est-à-dire le Val de Durance et Manosque, et puis on a de toute façon toujours les difficultés des stations de ski et les difficultés du pays dinois. Et on n'apporte rien avec ce découpage. C'est mon avis.
Oui.
Bon, je n'étais pas aux manettes quand ce schéma a été proposé par l'ancien préfet et approuvé par l'ensemble des élus présents. Aujourd'hui, je considère qu'il y a de grands, gros, gros problèmes. Ce schéma ne prend même pas en compte les périmètres existants déjà au titre des pays. Ce qui fait que dans les communautés d'agglos, on a des superpositions de pays, on a des pays qui sont coupés en deux. Or, je rappelle simplement que dans les années qui viennent de s'écouler, les pays ont eu un rôle très important à jouer. Et les pays ont mis en place des actions extrêmement importantes, y compris dans le cadre du développement économique. Et qu'aujourd'hui, eh bien, on ne sait plus qui sera le porteur de ces projets pour lesquels il y a eu des emplois, pour lesquels il y a des fonds européens et qui sera porteur. Donc ça, c'est une vraie question. Entre autres, c'est une question juridique.
Est-ce qu'il aurait fallu, notamment pour l'Ubaye, faire tomber les limites départementales et notamment aller sur cette logique de pays, le pays sud, Serpenson, Ubaye, Durance, Embrun, Savinois notamment?
Pourquoi pas? Mais je reste convaincue que, pour vous donner qu'un exemple, le pays de Seine n'avait pas vocation à être raccroché au pays dinois. C'est mon avis. Hein, bon, il n'engage que moi. C'est mon avis. Simplement, la grosse difficulté, c'est que dans le département des Alpes-de-Provence, nous avons des stations de ski qui ne sont pas très florissantes, il faut bien le dire, parce que ce sont des stations de basse altitude et que donc elles mettent en péril les structures porteuses, alors communes ou syndicats, mais elles mettent en péril les structures porteuses. Donc effectivement, la question qu'il fallait se poser, c'est comment tous ensemble travailler avec nos stations de ski. Peut-être, je ne sais pas, encore une fois, ça n'engage que moi, créer un syndicat à vocation unique qui soit l'interlocuteur et le seul de tout ce qui touche à la montagne et à la neige, et puis après redonner un bol d'air aux collectivités, aux communes ou aux intercos, parce qu'aujourd'hui, les stations de ski qui vont mal entraînent dans leurs difficultés, les communes ou les communautés de communes qui les portent.
Mais j'en reviens à cette idée de Cyril et qui complétait la question que j'avais posée juste avant. Mais est-ce que par rapport à ce pôle montagne qui va être créé, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'envisager ce rapprochement avec les stations du 04 et du 05 de manière à créer une émulsion qui permette à la fois de laisser les grandes se développer et également de tirer vers le haut ces petites stations quitte à les mutualiser les unes aux autres? Parce que là, on est en train de parler peut-être d'un avenir qui va arriver très prochainement et qui fera basculer peut-être une partie de ce territoire. Alors vous me direz, la compétence et le choix n'en revient pas à la région.
C'est dans un avenir très proche qu'il faut se poser ces questions. Et effectivement, vous avez raison, il faut avancer. Et il faut faire des propositions en ce sens parce que nous ne pouvons pas laisser en l'état les stations de ski, par exemple du pays de Seine, ou même le Sauze. Hein. Nous ne pouvons pas les laisser en l'état. Nous devons réellement réfléchir à leur avenir.
Le pôle montagne de la région pourrait être force de proposition et au-delà pousser à des décisions qui soient un petit peu ambitieuses ?
Force de proposition, certainement. Force financière, certainement aussi. Mais évidemment, on ne va pas là non plus pouvoir intervenir partout. Donc, il va falloir probablement faire des choix. Et ces choix, il ne faut pas qu'ils pénalisent des pans entiers de territoire.
Oui.
D'où la difficulté.
Oui, oui, j'entendais aussi par là force de proposition et aussi de pousser les décisions dans le bon sens. Pas forcément à travers l'apport d'argent supplémentaire, mais de pousser à ces décisions-là.
Oui, c'est une réflexion que nous devons avoir.
Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant, Eliane Barret, la troisième partie d'Au bout de l'actu, juste après ça.
Au bout de l'actu,
Alpe 1,
avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Et ce soir avec notre invitée, Eliane Barret, qui est sixième vice-présidente à la région PACA. Puisqu'on parle de ce pôle montagne, la transition est toute faite avec cette idée soulevée par la CGT territoriale de la région PACA. Y a-t-il une chasse aux sorcières, pardonnez-moi, qui est opérée de la part de l'un de vos collègues, également vice-président, qui est le maire de Gap également, et qui s'appelle Roger Didier. Je reviens succinctement sur cette affaire qui est sortie ce lundi sur Alpe 1, retour le 11 mai dernier à Gap lors d'une réunion publique d'information sur le nouveau dispositif régional devant les maires et du département, les conseillers départementaux, les structures concernées, du développement touristique, bref, devant 150 élus environ. Roger Didier annonce la création d'un pôle montagne à la région et la nomination prochaine de son nouveau responsable en la personne du directeur de l'EHPAD de Gap. Alors, une formalité jusque-là, sauf que il y avait déjà une personne qui était en responsabilité sur ce pôle-là, qui est chef du service montagne et massif alpin, c'est Delphine Vitali, et qui a d'ailleurs participé à l'élaboration du projet qui a été présenté lors du vote le 8 avril dernier, me semble-t-il, à la région. Qu'a fait Roger Didier là ? Il est allé un peu vite en besogne, il a joué une chasse aux sorcières. Vous allez évidemment me dire non sur cette proposition-là.
Mais... Je dirais tout simplement qu'il a été très maladroit.
Ouais.
Parce qu'effectivement, c'était lors d'une réunion en plus que je présidais, puisque c'était la présentation du Fonds régional à l'aménagement du territoire.
Et, le FRAT.
Voilà, le FRAT, qui est une véritable action en faveur de la ruralité. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé.
Parce qu'on en avait déjà pas mal parlé la dernière fois, remarquez.
Non, mais je vous le dis au passage quand même.
Bon. Mais comme on en avait déjà parlé, on ne revient pas systématiquement sur les sujets, vous le remarquez, aussi.
C'est très bien. Et donc, effectivement, il a fait un effet d'annonce et, qui, le lendemain, a suscité la levée du bouclier de la CGT, ce qui est bien normal, je vais dire, parce qu'effectivement, la jeune femme était dans la salle et que... par là, elle a entendu des propos qui, effectivement, la mettaient en difficulté. Et on pouvait imaginer qu'il y avait, de notre côté, une volonté. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, je pense que c'est une grande maladresse et que je crois que Chantal Emeoud, immédiatement, a rencontré Madame Vitalis et que... et qu'elles ont eu une longue discussion. Ça, je sais que ça a été fait. J'ai moi-même rencontré, sans avoir un grand discours avec elle le lendemain. Mais dans la vie d'élu, quelquefois, il y a des effets d'annonce qui ne sont pas bienvenus.
Alors, effet d'annonce malvenu, mais est-ce que ça remet en question le fait que Delphine Vitali sera donc proposée à un autre poste et remplacée, ou pas ?
Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne vous répondrai pas à ce niveau-là parce que je n'en sais rien.
Bon, eh bien,
tout simplement.
Alors, parlons pastoralisme. Vous l'avez entendu dans l'actualité des Alpes du Sud, la course cycliste du Giro arrive dans les Hautes-Alpes, les Antilous qui promettent notamment de se mobiliser. Et ça nous renvoie aussi à cette réalité, et notamment dans le Champsaur, mais pas que. Certains éleveurs sont obligés de rester la nuit auprès de leurs bêtes. Certains ont acheté des caravanes pour rester auprès de leurs bêtes. Certains ont pris simplement les duvets pour les protéger du loup. Quelle peut être l'action de la région ? Quelle peut être votre action en la matière ?
Et nous y travaillons beaucoup parce que, vous le savez, c'est une de nos préoccupations. Effectivement, les éleveurs sont en grande détresse parce que la prédation du loup est en forte augmentation. C'est particulièrement vrai, d'ailleurs, dans le département des Alpes-de-Provence. Donc ça a non seulement un impact sur l'homme, mais ça a aussi bien entendu un impact sur leurs finances, puisqu'ils sont aussi en grande difficulté financière du fait des actions qu'ils sont obligés de mener pour se protéger du loup. C'est une évidence. Donc, nous intervenons au niveau de la région, d'ores et déjà, en termes d'équipement de protection. Alors, une grosse partie est déjà financée dans le cadre du plan loup par l'État, hein, bien sûr. Et nous, au niveau de la région, nous intervenons sur les équipements pastoraux en lien avec le FEADER. Donc ça, c'est une action que nous menons d'ores et déjà.
Ils ressemblent à quoi, ces équipements, pour être très concret, pour ceux qui nous écoutent ?
Ce sont des équipements, par exemple, de cabanes, de bergers, qui soient dignes et acceptables pour y vivre, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas partout. Donc avec des financements très importants, puisque le FEADER et la région financent au plus haut niveau ces cabanes. Voilà, par exemple, mais ça n'est qu'un exemple, c'est aussi l'acquisition des patous dans le cadre du plan de protection, l'acquisition de clôtures lorsque c'est possible. Il y a déjà des financements importants.
Ségolène Royal a confirmé au député des Hautes-Alpes, Joël Giraud, qu'elle s'était engagée à renégocier avec l'Europe la Convention de Berne. C'est ce que souhaitait également Christian Estrosi, c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là ?
C'est une bonne nouvelle. Malheureusement, ça ne réglera pas tous les problèmes puisque le loup est en prolifération et que de toute façon, aujourd'hui... Sauf s'il sort de l'espèce protégée et qu'effectivement, nous pouvons en réduire le nombre. Je crois qu'il en va réellement de l'avenir de l'élevage et des éleveurs.
Vous le disiez, on aide aussi à l'acquisition des patous. Les patous qui sont des chiens extrêmement décriés parce qu'ils attaquent un peu n'importe quand et n'importe où, y compris des randonneurs.
Toute la difficulté là, c'est effectivement de pouvoir maintenir en même temps l'activité touristique et l'activité d'élevage, parce qu'effectivement, il y a le loup, mais il y a aussi les fameux patous qui...
Qui ne sont pas des chiens de compagnie pour touristes, mais qui sont bien des chiens de défense pour les troupeaux, c'est bien de le rappeler.
Tout à fait. Donc il y a des actions qui sont menées au travers des communes pastorales. D'ailleurs, il y a la création d'une association de communes pastorales qui doit voir le jour par l'Assemblée Générale et très prochainement. Et donc, effectivement, il y a aussi des actions de mise en sécurité, c'est-à-dire d'alerte avec des pancartes qui disent aux touristes, attention, il y a des pâturages, donc il y a des loups,
Il y a des chiens.
Excusez-moi, il y a des chiens. Voilà, c'est un lapsus très révélateur.
Vous avez foi au changement qui peut être opéré en la matière ?
Je suis très inquiète. Je suis très inquiète parce que je vois, je rencontre beaucoup d'éleveurs, puisque vous le savez, dans le cadre de ma délégation, j'ai déjà rencontré beaucoup d'éleveurs et je continue. Et je suis très inquiète quand je vois dans quel état ils sont. Et j'ai du mal à voir l'aboutissement d'actions et d'actions fortes, notamment par le gouvernement et par l'Europe.
Peut-être l'occasion pour Christian Estrosi d'envoyer une lettre d'invitation pour passer une nuit dans ces fameuses cabanes à Ségolène Royal pour que la réalité soit plus proche.
Vous savez que Christian Estrosi est très proche de la montagne et des éleveurs.
Une invitation à Ségolène Royal pour venir, elle, dans ces mêmes cabanes que vous annonciez.
Je pense qu'il y a un certain nombre de gens du gouvernement qui devraient venir vivre la vie de nos éleveurs et je pense qu'ils verraient autre chose.
Eliane Barret, restez avec nous. J'ai quelques questions politiques à vous poser dans un instant avant la Tribune Libre. A tout de suite.
Au bout de l'actu. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
On va aller très vite pour cette dernière partie parce qu'on n'est pas en avance et il nous reste encore la Tribune Libre et la phrase du jour. Mais tout de même, Eliane Barret, la visite de Nicolas Sarkozy, vous y étiez. Avez-vous, comme beaucoup de politiques, réalisé votre selfie avec Nicolas Sarkozy parce qu'il semblait que c'était un concours lancé entre tous ceux qui étaient sur place pour avoir son selfie avec Nicolas Sarkozy?
Bien non.
Bon, au-delà de ce clin d'œil, la question est de savoir s'il vous a demandé d'aller aux législatives.
Concernant les législatives, je pensais bien que vous alliez en venir là. Moi, il ne m'appartient pas de parler des candidats parce que je crois que tant que nous n'avons pas eu un premier contact et une première commission d'investiture, honnêtement, les choses ne sont absolument pas calées, contrairement à tout ce qui se dit. Parce que pour l'instant, rien n'est arrêté.
Sébastien Genet, lui, a l'air assez sûr sur sa circonscription d'être seul, malgré la possibilité de voir Jacques Despieux, le maire de Manne, y aller également. C'est un peu plus indécis sur l'autre circonscription. Il se dit que des femmes pourraient être également potentiellement présentables. Mais je vous repose cette question, puisque vous y avez laissé un temps d'arrêt, c'est que donc il y avait réflexion en la matière. Nicolas Sarkozy, vous a-t-il dit, ce doit être toi, Eliane ?
Nicolas Sarkozy ne me l'a pas demandé, mais effectivement, Paris m'a appelé. Donc aujourd'hui, je le dis, ça n'est pas dans mes perspectives, puisque je sors d'une campagne quand même difficile, et qu'aujourd'hui, je me donne complètement à ma délégation de vice-présidente à la région. Par contre, en tant que secrétaire départementale, effectivement, je rencontre des gens qui sont susceptibles d'être candidats, et je travaille avec eux, et je vois avec eux quel est leur projet, quelle est leur possibilité de réussite, voilà. Mais je ne me suis pas arrêtée à une personne. J'ai rencontré déjà plusieurs personnes, sur la 1 particulièrement, parce qu'effectivement, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de candidats potentiels. Sur la 2, valeur aujourd'hui, il est exact qu'il n'y a pas d'autres candidats dévoilés que Sébastien Ginet. Pour autant, ça ne veut pas dire que d'ici la commission d'investiture, il n'y ait pas d'autres candidats. Je rappelle qu'il peut y avoir une commission d'investiture qui définisse donc les candidats fin juin dans les secteurs où il n'y a pas de problème ou dans les secteurs où il y a des sortants. Par ailleurs, pour le reste, pour les autres circonscriptions, il peut y avoir une commission d'investiture qui se réunirait après les primaires. Donc, vous voyez, on a quand même vraiment du temps. Et on a...
Quoiqu'une campagne, ça se prépare, on est à un an des législatives.
Oui, mais il y a quand même du temps pour les candidatures.
Tout à fait.
Parce que
quelle place auront les militants dans ces investitures?
Les statuts sont clairs au niveau des Républicains. C'est la Commission nationale d'investiture qui est seule souveraine. Rien n'empêche, effectivement, le comité départemental d'émettre un avis. Donc, s'il y a plusieurs candidats, nous demanderons l'avis du comité départemental. Sauf que, je le redis, il n'a qu'un avis consultatif.
On passe... merci d'avoir répondu à ces questions. On passe à la tribune libre et on poursuit avec votre regard sur l'actualité avec vous, qui avez rencontré le micro d'Alpe 1 dans les rues des Alpes du Sud.
Depuis quelques mois, la télévision met en avant des publicités pour les cigarettes électroniques. Elles vendent généralement les mérites du procédé qui permet de changer de capsule en quelques secondes seulement. Toutefois, ces publicités font bondir certains acteurs du secteur ou des téléspectateurs, car finalement, l'e-cigarette n'avait pas les mêmes contraintes que le tabac. Et une publication finalement dans le journal officiel daté du 20 mai remet les pendules à l'heure. Tout le monde se retrouve sur le même pied d'égalité. L'e-cigarette est considérée comme un produit de tabac. Les publicités sont donc interdites. Va-t-on trop loin dans l'interdiction de ce produit ou est-ce tout à fait normal?
Eliane Bareil, qu'est-ce qu'on fait de cette e-cigarette qui pose tant de questions? On doit la mettre au même niveau que la cigarette dite ordinaire?
Je trouve qu'on va beaucoup trop loin. Je trouve qu'on est déjà allé beaucoup trop loin pour la cigarette, pour le tabac, mettant ainsi en danger un grand nombre de buralistes, parce qu'il faut aussi avoir cette connaissance du terrain. Ils sont fort nombreux sur le territoire national, et tous en danger aujourd'hui, et tous en difficulté. Et puis, bon, c'est vrai, c'est un problème de santé, je le reconnais, mais à la fois, est-ce que vous croyez que le paquet neutre va générer beaucoup de baisses en termes de fumeurs, j'en suis pas vraiment persuadée. Et de la même façon pour l'e-cigarette. Alors, je pense que l'e-cigarette, d'ailleurs, j'écoutais l'autre jour un médecin qui le disait, je crois que l'e-cigarette a au moins la capacité d'aider le grand fumeur à s'arrêter de fumer. Je pense qu'il faut être mesuré comme en toute chose.
Alors, et vous, qui avez rencontré le micro d'Alpe 1 dans le des Alpes du Sud, vous en dites quoi?
La tribune libre.
Je pense qu'il faut qu'elle soit interdite parce que, en fait, il y a des produits à l'intérieur qui sont peut-être encore plus nocifs que la nicotine dans les vraies cigarettes. Et que je pense qu'au bout d'un laps de temps, on risque de replonger dans la vraie cigarette. Donc, je suis absolument contre.
Eh ben non, je trouve que c'est pas normal, c'est dommage, parce que ça inciterait peut-être un peu plus de monde justement à se tourner vers ce problème et à essayer.
Si c'est interdit pour toutes les cigarettes, je suis d'accord. Si c'est pas interdit pour toutes les pour pas toutes les cigarettes, c'est pas normal, non. C'est de la discrimination.
C'est une pub comme toutes les autres, donc oui et non en fait. Oui, parce que c'est bon pour notre santé qu'elle soit interdite, et non parce que c'est une publicité comme les autres. T'as des publicités... pour plein de trucs. Donc.
La tribune libre.
Bon, eh bien, on ne mettra pas tout le monde d'accord ce soir, on l'a compris à travers ce micro-trottoir. Et on vous redonnera, bien sûr, demain soir, la parole, comme chaque soir dans le bout de l'actu.
Qui prouve juste que le lobby du tabac a encore de belles heures quand même devant elle.
Alpe 1. 18h-19h. Au bout de l'actu sur Alpe 1.
Allez, on va pratiquement conclure cette édition avec la phrase du jour, elle est courte.
Qui a dit la CGT, ce sont des groupes ultra-gauchistes.
Qui a pu dire cela? Manuel Valls, le Premier ministre, Karine Berger, la députée PS des Hautes-Alpes, Christophe Pierret, le directeur de cabinet adjoint à l'Elysée, ou celui qu'on ne présente pas ce soir parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, Christian Estrosi. La CGT sont des groupes ultra-gauchistes.
Je suis très hésitante parce que je ne sais pas.
Bon.
Ça pourrait être Christian Estrosi, mais ça pourrait être aussi Manuel Valls.
Eh ben, c'est Christian Estrosi qui a déclaré aujourd'hui donc que c'était des groupuscules ultra-gauchistes et que ceux qui bloquaient les raffineries de pétrole étaient des hors-la-loi.
Il a raison.
On en revient à la question initiale. Est-ce que la CGT, qui est un syndicat minoritaire, a tous les droits et doit bloquer un certain nombre, la majorité des gens et le pays tout entier, voilà. Je crois que ça revient à la première question.
Avant de nous quitter, vous avez pris la programmation musicale en main. Le choix nous ramène quelques mois en arrière, pratiquement un an en arrière, lors de la venue d'un certain Kenji Girac du côté de Manosque pour Musique à Manosque. Vous en y étiez, Eliane Barré, et c'est un peu pour ça que vous faites ce choix ce soir. Pas directement pour vous.
C'est ça, j'ai joué la mamie ce soir-là et j'ai amené mon petit-fils voir Kenji parce qu'il avait envie d'y aller. Donc il m'a dit, mamie, puisque tu vas à Alpe 1, demande Kenji.
Voilà. Rappelons-nous que ce soir-là, vous n'étiez pas toute seule à y être, hein, d'ailleurs,
non,
pour aller voir Kenji.
Tout à fait.
On écoute un extrait, on vous laisse passer dans le self-o-maton.
C'est une façon de voir la vie, un peu plus grande qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris. Un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano, el color de mi cielo.
De votre petit-fils, on ne pourra pas aller plus loin sur la version de ce titre.
Je m'en doutais pas.
Coloritano, à l'instant, le choix donc de notre invité, Eliane Barré, qu'on remercie d'avoir été notre invité ce soir. À bientôt.
Merci à vous.
La suite dans un instant, on avance parce qu'on est très en retard, le récap de l'info, tout de suite.